Depuis Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs. Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme du journal. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le surfeur indonésien Branson Medi est champion du monde junior WSL. La République d'Indonésie et les États-Unis ont achevé le processus de transfert de dettes pour la conservation des récifs coralliens. La Chine invite l'Indonésie à mettre en œuvre l'initiative de développement mondial. Le ministère des Travaux publics s'assure que le stade Kanjuruhan répond aux normes de la FIFA. Hanif Faisal a déclaré que le gouvernement traitait les déchets plastiques dans ses rivières de Jaffa à Bali. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. L'athlète indonésien de surf de vague, Branson Medi, est devenu le champion du monde junior du championnat du monde junior de la World Surf League 2024 qui s'est tenu samedi à San Juan, La Union, Philippines. Lors de la finale diffusée en direct par la WSL, Branson a réussi à marquer un total de 18,80 points devant son concurrent, le surfeur australien Winter Vincent, qui a enregistré un total de 17,84 points. Cité par Antara à Jakarta, il a affirmé que cette victoire était ciblée depuis le début de l'année. Lors du championnat du monde junior de la World Surf League 2024, l'équipe nationale indonésienne de surf a aligné deux athlètes masculins, à savoir Branson Medi et Imade Pajar Ariana, qui se sont classés au premier rang dans la catégorie Men's Junior Tour Regional Asia. Deux représentants indonésiens ont concouru avec 48 athlètes de surf de vague venus de 14 pays d'Asie, d'Afrique, d'Australie-Océanie, d'Europe, d'Hawaï, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. Avec sa victoire au championnat du monde junior, Branson a obtenu une place pour participer à la série Challenger, un championnat auquel participent 100 des meilleurs athlètes de 5 continents. Les gouvernements indonésiens et américains ont achevé le 15 janvier 2025 le processus de transfert de dettes d'une valeur de 35 millions de dollars américains ou environ 573 milliards de roupies pour les activités de conservation et de protection des récifs coralliens en Indonésie. Dans un communiqué officiel samedi à Jakarta, le directeur de la conservation des écosystèmes et du biote aquatique du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, M. Firdaus Agung Kunto Kurniawan, a expliqué que le processus de transfert de dette était en cours depuis plusieurs années et puis convenu en juillet 2024. Selon lui, L'utilisation des fonds de ce transfert de dette sera axée sur le soutien à la protection et à la conservation des écosystèmes des récifs coralliens dans le paysage marin de Kepalavurung et la mer de Sunda Banda. La Chine invite l'Indonésie à mettre en œuvre conjointement l'initiative de développement mondial dont le but est de créer une vie meilleure pour les peuples des deux pays. C'est ce qu'a déclaré le ministre du département des relations internationales du comité central du Parti communiste chinois, Liu Jianchao, lors d'une discussion à Jakarta samedi dernier. Cité par Antara, Liu a déclaré que l'Indonésie et la Chine estiment que chaque pays doit respecter sa propre culture et celle des autres pays. Et grâce à ces valeurs et idées, les pays asiatiques sont capables de se comprendre et de s'entraider. Selon lui, pour rester sur cette voie, les deux pays doivent également s'efforcer de parvenir à un développement commun dans tous les pays d'Asie et du Sud ou dans les pays en développement du monde en général. Le ministère des Travaux publics garantit que toutes les installations du stade Kanjuruhan à la région de Malang, Java de l'Est, répondent aux normes de l'organisation mère du football mondial, la FIFA. Cité par Antara à Jakarta samedi, le ministre des Travaux publics, Dodi Hanggodo, a déclaré que l'état général du stade de Kanjuruhan avait été directement examiné par la FIFA et la Fédération indonésienne de football, alors que le processus de rénovation était toujours en cours. Il est optimiste qu'avec le respect des normes de la FIFA, le stade Kanjuruhan pourra à l'avenir ajouter des options en tant que lieu pour l'organisation de matchs de football de niveau international. Le ministre de l'Environnement, Hani Faisal Nurofik, a déclaré que le gouvernement s'occupait des déchets plastiques qui s'écoulaient dans 4 rivières à Java et 2 rivières à Bali jusqu'à ce qu'ils s'échouent sur un certain nombre de plages de l'île de Dewata. Cité dimanche par Antara à Jakarta, il a expliqué que son parti installerait des filets pour récupérer les déchets et les ramasserait ensuite pour qu'ils ne finissent pas dans la mer. C'est pourquoi le gouvernement indonésien collabore avec l'Agence du Programme des Nations Unies pour le développement et est soutenu par plusieurs pays comme la Norvège et les Émirats arabes unis. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « L'Indonésie apprécie le cessez-le-feu à Gaza ». L'Indonésie apprécie l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Le ministre des Affaires étrangères Sugiono a déclaré que cet accord était conforme à ce que l'Indonésie avait poussé jusqu'à présent à travers divers forums. Via le réseau social X, jeudi, Sugiono a déclaré que la prochaine étape importante était de garantir que l'accord soit mis en œuvre immédiatement et de manière globale afin d'éviter davantage de victimes. Sugiono a expliqué que les atrocités israéliennes en Palestine ont coûté la vie à des dizaines de milliards de Palestiniens. Selon lui, ce nombre n'est pas seulement une statistique, car chaque chiffre est une vie humaine. Il espère que le cessez-le-feu pourra constituer un élan pour encourager la paix en Palestine. Il a également souligné que la paix pourrait être réalisée si la Palestine était indépendante et souveraine, conformément à la solution à 2 États convenue par la communauté internationale. En outre, l'Indonésie s'est déclarée prête à contribuer aux efforts visant à restaurer la vie sociale à Gaza par l'aide humanitaire, le soutien au rôle de UNRWA ou bien les efforts de reconstruction de Gaza. Par ailleurs, le président de l'Agence de coopération interparlementaire de la Chambre des représentants indonésienne, Mardani Alisera, a qualifié le cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas de fenêtre humanitaire dont il faut être reconnaissant. Il a également demandé aux deux parties de respecter l'accord de cessez-le-feu et d'ouvrir immédiatement l'aide humanitaire à Gaza. Djazuli Juwaini, membre de la Commission 1 des pairs de la République d'Indonésie, a déclaré que les efforts diplomatiques ne devraient pas s'arrêter, même si un cessez-le-feu a été convenu entre Israël et le groupe de résistance palestinienne, le Hamas. Jazuli Juwaini, membre de la commission en DPR RI, a déclaré que les efforts diplomatiques ne devraient pas s'arrêter, même si un cessez-le-feu a été convenu entre Israël et le groupe de résistance palestinienne, le Hamas. Jazuli a rappelé que la position de l'Indonésie avait été claire dès le début, exhortant Israël à mettre fin à toutes les formes d'agression et de colonisation des territoires palestiniens. Il espère également que le cessez-le-feu pourra mettre fin définitivement à l'occupation de la Palestine par Israël. C'est la mise au point de la semaine. Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 19 janvier. On commence par le 19 janvier 1955, le jeu de société Scrabble est mis en vente en Angleterre. Le Scrabble est un jeu de société et de construction de mots joués par deux ou quatre personnes qui collectent des points en fonction de la valeur des mots formés à partir de lettres sur un plateau de jeu à carreaux. Auparavant, le jeu Scrabble était populaire aux États-Unis. Le Scrabble est devenu de plus en plus populaire après que James Brunet de Newton à Connecticut ait acheté les droits de production en échange de redevances à but sur chaque unité vendue au créateur du jeu, Alfred Mosherbot. Le 19 janvier 1960, la signature du pacte de sécurité commun américano-japonais. Le pacte de sécurité mutuelle entre les États-Unis et le Japon a été signé pour la première fois en 1951 au Presidio de San Francisco à la suite de la signature du traité de San Francisco. Plus tard, le pacte de sécurité a été encore amendé en janvier 1960 entre les États-Unis et le Japon à Washington. Le traité stipulait que toute attaque contre le Japon ou les États-Unis menée sur le territoire administratif japonais serait dangereuse pour la paix et la sécurité de leurs pays respectifs. Le 19 janvier 1966, Indira Gandhi a prêté serment en tant que première ministre de l'Inde. Indira Priyadarshini Gandhi a été première ministre de l'Inde du 19 janvier 1966 au 24 mars 1977 et a continué du 14 janvier 1980 jusqu'à son assassinat le 31 octobre 1984. En tant qu'aînée de premier ministre indien Jawaharlal Nehru et que mère de Rajiv Gandhi, Indira Gandhi était une femme tumultueuse et très controversée comme dirigeante des partis politiques et politiques de son pays. Le 19 janvier 1966, elle est élue présidente du Parti du Congrès pour remplacer Lal Bahadur Shastri. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Untuk mencintai aku tak mudah.
chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Les auditeurs de Voice of Indonesia, mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulée « Les championnats sportifs internationaux à Sumatra du Nord encouragent la croissance du tourisme ». L'association indonésienne des motocyclistes, initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, a franchi une étape stratégique en signant le championnat du monde de rallye, championnat du monde de rallye WRC, qui se tiendra à Toba, Sumatra du Nord. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dito Aryo Tejo, après avoir signé la collaboration avec l'événement WRC mercredi à Jakarta, a déclaré que le championnat du monde organisé dans la région de Toba, Sumatra du Nord, avait stimulé la croissance du secteur touristique dans la région. Il a déclaré que cela était lié au rôle de l'Indonésie en tant que du championnat mondial du développement dans la région où se déroulait l'activité. Le championnat WRC est le deuxième plus grand événement automobile international après la Formule 1. Auparavant, dans la zone autour du lac Toba, il y avait des championnats du monde de F1, powerboat et d'aquabike, ce qui a eu un impact sur le développement du secteur touristique dans la région. À l'avenir, a-t-il déclaré, une épreuve de course automobile du championnat du monde des rallyes WRC aurait également lieu à Toba en 2026. La signature de la collaboration pour organiser le WRC 2026 implique le ministère de la Jeunesse et des Sports à travers l'institution sportive des gestionnaires de fonds et d'affaires ou Indonesia Sport Promoter en collaboration avec l'Association indonésienne des motocyclistes ainsi que le WRC Promoter. Dans le contenu de cette collaboration, il y a de nombreux avantages pour l'Indonésie outre l'augmentation du tourisme et de l'économie locale, à savoir l'implication des apprentis pilotes indonésiens dans les équipes participantes et des équipes de fabrication à la participation de coureuses à l'événement WRC. C'est tout mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
jamming, yeah.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, Bandung de l'Ouest a un potentiel touristique naturel abondant et l'un d'eux est la cascade de Walanda ou Curug Walanda qui se trouve à la campagne de Gugunturan, village de Citata, sous-district de Cipatat, région de Bandung de l'Ouest. Ce Curug est l'un des tourismes préférés à Cipatat. La cascade Walanda ou Curug Walanda a sa propre particularité car la rivière coule d'un tunnel d'environ 162 mètres de long et une hauteur de 8 à 10 mètres de diamètre. La hauteur de la cascade Walanda est d'environ 20 mètres et se jette dans la rivière Cirawa qui continue de se connecter à la rivière Cimeta. Le tunnel de la cascade Walanda ou Curug Walanda existe depuis l'époque coloniale néerlandaise. Construit vers 1889 pour alimenter en eau le train à vapeur de la gare de Cipatat. On pense que le nom Walanda vient du mot Blanda ou en français néerlandais qui est lié à la construction de la ligne ferroviaire de Bandung à Cianjur à cette époque-là. En plus d'avoir une cascade vieille de plusieurs centaines d'années, la vue sur les rizières vertes coulant par la rivière Cirawa est également pleine de l'histoire de l'ancienne Bandung. Certaines des installations construites, comme le pont arc-en-ciel, situé juste en face de la cascade de Walanda, se prêtent également très bien aux spots photo instagrammables. En plus de pouvoir profiter de la vue autour de la cascade, vous pourrez également vous reposer à saung disponible. Saung est un mot en sundanais qui signifie maison ou petite cabane. Selon la direction de Curug Walanda, ce site touristique construira également un lieu pour des représentations d'art sundanais et d'instruments de musique traditionnelle sundanais tels que l'instrument de musique Tarawangsa et l'art sundanais Beluk. Tarawangsa est un instrument à cordes qui n'a que 2 à 3 cordes. Pendant ce temps, l'art sundanais, Beluk, est une forme d'art sonore sundanais typique qui repose sur la puissance vocale sans l'accompagnement d'instruments de musique. Ces artistes sont capables de créer des mélodies belles et complexes en utilisant uniquement leur voix. Le son produit est généralement aigu et présente une touche distinctive. Les auditeurs, pour arriver à la cascade Walanda, on peut prendre des véhicules à 2 ou 4 roues. Du centre-ville de Bandung à l'emplacement de la cascade Walanda, cela prend environ 1h30. Si vous êtes à Bandung, vous pouvez y aller par la route en direction de Padalarang, puis de Citata. Après avoir garé le véhicule, il faut encore marcher environ 20 minutes jusqu'à la route de la campagne qui passe la voie ferrée de Bandung à Cianjur, qui n'est plus opérationnelle. Depuis la voie ferrée, il ne faut que 10 minutes pour arriver au site de Curug Walanda. Si vous utilisez une moto, les visiteurs peuvent aller directement au parking à côté de la cascade. Bon, chers auditeurs, c'est toute l'édition du magazine culturel. Demain, nous nous retrouverons avec d'autres sujets intéressants. À bientôt!
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Wajahnya kulirik lagi dia, semakin ku pandang wajahnya semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda, gayanya wajar mempesona. Siapa dia? Wajahnya kulirik lagi dia, semakin ku pandang wajahnya semakin rupawan. Matanya memancarkan cinta, senyumnya manja nan menggoda, gayanya wajar mempesona. Siapa dia?
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonjour à notre ami d'Algérie, Abdelkader Khalil. Merci beaucoup pour vos chaleureuses félicitations. Je vous apprécie vraiment. Et nous espérons également pour que vous soyez toujours en bonne santé, heureux et prospères. Merci à vous qui nous ont toujours écoutés et restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. La suite, écoutons la rubrique suivante, l'Indonésie en couleur. Chers auditeurs, je suis très heureuse de pouvoir vous saluer à nouveau dans le segment l'Indonésie en couleur, qui présente des informations uniques et intéressantes sur l'Indonésie. Cette fois, nous parlons de l'un des événements majeurs dont l'Indonésie est fière, à savoir le 4e Musabaqah Tilawatil Quran International ou abrégé en MTQ International qui se tiendra à Jakarta du 28 janvier au 2 février 2025. MTQ est une fête religieuse islamique indonésienne qui vise à glorifier le Coran. Cet événement réunira 60 participants venus de 38 pays et constitue une preuve claire du rôle de l'Indonésie dans l'intégration d'une image modérée et pacifique de l'islam. Le MTQ international n'est pas seulement un concours de lecture du Coran, mais aussi un élan stratégique pour montrer au monde le visage tolérant, inclusif et pacifique de l'islam indonésien. En préparation de cet événement, une sélection stricte a été réalisée en ligne en décembre 2023, impliquant des participants de 187 pays. Le résultat, 60 finalistes de diverses branches telles que Tilawah et Tahfiz al-Quran ont réussi à se qualifier pour la grande finale. Les participants représentaient les continents Asie, Afrique, Europe et Amérique, reflétant la diversité qui a rendu cet événement encore plus coloré. En vue des compétitions, le 4e MTQ international a également été agrémenté de diverses activités de soutien, telles que des séminaires internationaux, une visite du musée du Coran à Taman Mini Indonesia Indah, et une visite du tunnel Silaturahmi de la mosquée Istiqlal. Tout cela avait pour but de faire de l'Indonésie le centre de la civilisation islamique mondiale. Avec le soutien de 22 juges expérimentés, on espère que cet événement se déroulera sans problème et laissera une profonde impression sur les participants et les spectateurs. Chers auditeurs, voici l'information sur le 4e MTQ international à Jakarta qui sera un événement d'amitié internationale ainsi que le renforcement de l'image positive de l'Indonésie aux yeux du monde. Merci d'avoir écouté l'Indonésie en couleur, The Voice of Indonesia. Ne manquez pas la prochaine édition avec une variété d'autres informations uniques et intéressantes. À bientôt!
Baju lari mesin-mesin ini begitu tangguh, mustahil terkejar. Meski sudah maksimal 1000 langkah kakiku, berhenti sejenak, beri-beri tubuhmu pesona. Oh,
Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali. Perhatikan nafasmu, degup irama mewah tersyadu. Beri-beri tubuhmu pesona. Di layar para sibuk berselancar, jeda dulu reda. Boleh juga lama tak apa, nanti tak harus robotik, kau sudah cantik ya. Yeah. Hidup memang harus canggih, tapi pastikan kau yang pegang kendali.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne.
Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois-ci, je vais parler d'une chanson de Delantis. Delantis, un groupe indie-pop de Jakarta formé en 2019. Ses membres sont Giri comme bassiste et chanteur, Ravi comme guitariste et chanteur et Ojan comme guitariste. Le nom Delantis est devenu connu après la sortie de la chanson intitulée Lampu Merah. En 2024, ils ont publié un album complet intitulé Pancarona. Le premier single de cet album s'intitulait Bunga Maaf, qui est lancé également la même année. Cette chanson est la première œuvre de Delantis qui implique d'autres musiciens dans le processus de production, à savoir Randy Pandugo, qui joue le rôle de co-scénariste et producteur. Bunga Maaf raconte de quelqu'un qui espère une seconde chance, mais cette chance a été perdue depuis longtemps. À travers cette chanson, Delantis veut décrire une histoire de profond regret et d'espoir vide résultant d'une relation détruite par l'ego dans le passé. Le titre Bunga Maaf a été choisi pour représenter un sentiment de regret et d'excuses pour les erreurs commises dans le passé. Une chose belle et aimante, mais vulnérable au flétrissement par le temps. Bon, chers auditeurs, voici Delantis dont le titre est Bunga Maaf. Bonne écoute!
Luka itu ada di sana yang ku tinggalkan saat kita masih bersama. Kini waktu terasa berbeda tanpa
Voice of Indonesia.
Quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.